Alors nous sommes au Meetup Monitoring qui a lieu à Paris. Je suis avec François Nolin et Maxence Germain de Montauzan, de Voyage SNCF. Elles nous ont fait une présentation très très intéressante, vraiment passionnante, peut-être un peu courte, qui aurait mérité peut-être un peu plus de durée. Malheureusement, le format du Meetup était un peu limité. Alors cette présentation s'intitulait « Monitoring as a service ». Une recette pour les équipes DevOps. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots ce que signifie le terme DevOps ?
Voilà une bonne question. Disons, alors j'ai pas vraiment préparé, hein, j'ai pas étudié, mais disons que souvent on a tendance à simplifier ça en expliquant que on essaie un peu de casser les frontières qu'il peut y avoir dans certaines entreprises entre les équipes dites de développement et les équipes dites ops ou d'exploitation, c'est-à-dire les gens qui s'occupent plus du déploiement, du support en production, la supervision des infrastructures, ce type de choses. Et donc c'est, on va dire, un anti-pattern, quelque chose qu'on voit dans pas mal d'entreprises, une séparation de ces équipes, séparation en termes d'outils, mais aussi une certaine séparation culturelle, avec potentiellement des fautes qu'on se rejette, ou en tout cas des incompréhensions. Voilà, il y a une sorte de mur de verre entre ces équipes. En fait, c'est un peu simplifié, on a tendance, du fait du terme DevOps, de opposer Dev et Ops, il faut pas oublier d'autres équipes qui pourraient tout à fait rentrer dans la définition, des équipes de testeurs, par exemple, des équipes de support, et donc, l'idée, en fait, une idée qui est née d'un certain nombre d'entreprises voilà, innovantes, c'est que pour arriver à adapter les services fournis par une entreprise aux contraintes fonctionnelles, métiers, il y a vraiment besoin de plus de collaboration entre ces différentes équipes. On ne peut pas se permettre de séparer ces équipes en leur donnant des objectifs différents, qu'elles aient un fonctionnement, une culture différente. Et donc on essaie de rassembler tout ça et de dire bon, il y a une équipe DevOps qui fournit les fonctionnalités et idéalement elle est capable de développer des choses, de les déployer, de les supporter. On essaie de rassembler, de casser cette frontière entre ces équipes.
Quelle a été l'origine de la création de cette équipe ? Vous avez un peu expliqué dans la présentation comment elle a été montée, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de la création de cette équipe? Est-ce que c'est venu de vous? Est-ce que c'est venu d'un membre de la direction? Est-ce que c'est venu suite à l'apparition du terme DevOps? Vous avez suivi un peu la tendance et vous l'avez adapté à votre politique interne?
Alors, avec Maxence, ça fait plusieurs années qu'on fait ce qu'on appelle vulgairement du suivi de prod chez Voyage SNCF, et on faisait du suivi de prod, ce qu'on appelait du suivi de prod niveau 3, c'est-à-dire que on faisait partie de ces gens qui vont aller en particulier analyser les logs des applications en cas d'incident en production, mais pas seulement, aussi faire des analyses sur des tests de charge en pré-prod et ce type de choses. Et c'est pas pour dire qu'on faisait du DevOps avant que ça s'appelle DevOps, mais on était dans des équipes qui n'étaient pas véritablement les Ops, qui n'étaient pas véritablement les exploitants, très focalisés sur notamment la supervision système, la supervision des infrastructures, ni côté développement, puisqu'on ne développait pas les applications, on faisait un petit peu les intermédiaires, entre guillemets, entre ces équipes-là. Donc on faisait du support en production, on faisait des analyses notamment en cas d'incident, mais il fallait savoir rentrer dans ce que font les applications, analyser fonctionnellement les incidents, analyser les logs, et l'analyse de logs c'est toujours un peu compliqué parce que d'une application à une autre, les logs sont généralement différents. Autant des logs Apache, des logs HAProxy, ce genre de choses, c'est toujours à peu près pareil, donc c'est assez industrialisé, c'est quelque chose qui est relativement connu dans le domaine. Autant chaque application a tendance à faire des logs à sa sauce, et donc ça nécessitait des expertises particulières de gens qui étaient vraiment à mi-chemin entre le travail des ops et la connaissance des applications qu'en ont les développeurs. Et puis avec le temps, et parce que nous-mêmes on a notre expérience de développeur classique entre guillemets, avant de toucher à ce qu'on appelle la prod, du coup petit à petit on a eu envie de moderniser des outils, d'automatiser certaines choses, de pouvoir redéployer des choses automatiquement, et puis voilà, on était aussi sensibilisé par ce qui se fait à l'extérieur en matière de DevOps, en matière de monitoring. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine du monitoring depuis quelques années. Donc à un moment donné, on s'est dit, on a eu envie, et on nous a donné l'occasion aussi chez Voyage SNCF de d'essayer de voir les choses un peu autrement et de créer une petite équipe et voilà, de changer un petit peu, d'apporter des nouveaux outils, mais aussi de changer petit à petit un petit peu la culture, d'arriver à mettre plus de monde dans le domaine, intégrer plus de monde dans le domaine de la supervision et faire, ça fait un peu slogan publicitaire, mais faire en sorte que petit à petit la supervision chez Voyage SNCF soit de plus en plus l'affaire de tous. Et arriver à ce que les développeurs, les chefs de projet et tout un tas de personnes qui n'avaient pas accès à la prod, n'avaient pas accès aux outils, aux données de monitoring historiquement, ben s'approprier ces données, ces outils et du coup contribuer à l'effort général, on va dire, de supervision et du coup la qualité de service générale.
Alors, vous avez expliqué un petit peu comment vous avez réussi à impliquer les développeurs, vous avez donné quelques recettes, c'était un peu ça l'idée de la présentation. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de recettes que vous avez mis en place et quelles sont celles notamment qui ont marché le plus ?
Alors, dans les différentes recettes qu'on a mis en place, il y a eu beaucoup de communication, on l'a vendu, on le revend encore, on a communiqué par quasiment tous les biais possibles imaginables, parfois avec des résultats plus ou moins bons, et ça, bah, ça permet déjà de se donner une visibilité, de voilà, les gens voient qu'il se passe quelque chose, s'intéressent. On a aussi donné des nouveaux moyens. Et un exemple très simple, c'est qu'on est inondé de mails, donc comme dans beaucoup d'entreprises, je pense. Et nous, on a dit, nous, on veut pas faire de mails. On n'a pas envie que les gens reçoivent des mails qui vont être détruits tout de suite. Donc on a créé un petit blog. Hein, c'est toujours avec des outils internes. On a créé des petits blogs. Ça, c'est un beau succès. Ça, les gens du coup ont des news un peu tout le temps. Il n'y a pas forcément de mails. Ça les intéresse ou pas, ils s'inscrivent. Ils s'inscrivent pas, ils font comme ils veulent. Donc ça, c'est une recette déjà, pour moi, un truc primordial qui marche bien. Toujours dans cet élan de com, on en a parlé, on fait des démos régulièrement, toutes les deux semaines, où on reprend certains éléments, on redit des choses, on montre les nouveautés, on implique du coup des gens qui nous ont demandé des choses. Voilà, on a le besoin là, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Et voilà ce qu'on a fait, est-ce que tu peux l'utiliser toi, nous montrer comment ça marche, et ce genre de choses-là. Et après, ça a donné aux gens l'envie de venir voir comment ça fonctionnait et de venir poser une petite brique qui, eux, les aide au quotidien pour aider d'autres mondes. Et du coup, les gens contribuent avec ça. C'est ça qui ouvre la contribution, entre autres. Et après, voilà, toujours pareil, des démos dans lesquelles ils viennent montrer ce qu'ils ont fait. Et bah, les gens ont contribué à un projet qui est pas le leur. On les a pas obligés, on leur a pas mis un couteau sous la gorge pour qu'ils le fassent. C'est de leur initiative et ils s'aident eux-mêmes, déjà, c'est déjà pas mal. Et potentiellement, ils aident plein de monde. Et nous, derrière, on fait la promotion de ça, on reprend un peu ça, et on crée des branchements, en fait. On connecte les gens les uns aux autres. On dit, ça, ce projet-là, c'est pas nous, c'est cette personne-là, va la voir et tout. Et c'est ça qui crée aussi une belle émulsion et qui est vachement fun, quoi, en fait, dans ce qu'on fait, quoi.
Et un élément que vous avez mis beaucoup en avant, c'est la documentation et les outils que vous fournissez aux devs pour les impliquer le plus possible. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces outils mis en place, de ces librairies mises en place, éventuellement de la documentation un petit peu ?
Alors, les librairies mises en place, on en a pas mal. Donc, la librairie de base, c'est pour produire de la donnée, donc produire des logs, produire des métriques. Il y a des librairies qu'on a fait nous-mêmes entièrement parce qu'il n'y avait rien. Il y a des librairies qu'on a récupérées d'autres composants. Donc, ça, c'est une base. À donner l'occasion aux développeurs de créer de l'information, de créer des choses. Ça, le problème, c'est qu'après, faut pouvoir les visualiser, les stocker. Donc, on a créé, la deuxième brique qu'on a créée, c'est pour simuler une infrastructure de centralisation. Donc, l'infrastructure Big Data se mettre dans des conditions qui sont quasiment égales à la prod et être vraiment sur du vrai terrain. Ça permet, du coup, d'avoir des dashboards qu'on a envie de visualiser. La troisième brique qu'on a donnée, c'est de pouvoir avoir, justement, des dashboards par défaut qui donnent un point d'entrée dans les données qu'on stocke, qu'on envoie. Donc, pas besoin d'être un expert sur l'outil de dashboard, vu qu'on a déjà, on a déjà un visuel. Une autre brique qu'on a mis en place, c'est une brique de validation. Donc, l'idée, c'est de, on envoie des choses dans une infrastructure. Est-ce que c'est à peu près ce qu'on attend? Est-ce que c'est complètement à côté? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? Donc ça, on a fait ça parce qu'on s'est rendu compte que des gens utilisent nos librairies pour créer des logs, très bien, et des gens, non, ils vont pas le faire pour des raisons X, Y, Z, ou pas encore, ou pas tout de suite, mais ils ont envie quand même de se raccrocher à la norme, de se raccrocher à des choses normalisées. Donc ça, c'est une autre brique qu'on a fournie. Qu'est-ce que j'oublie comme brique?
Il y a un certain nombre de choses, mais disons qu'on a commencé à construire, en fait, une pile, un catalogue, j'ai envie de dire, parce que on a essayé dès le début d'avoir ce qu'on appelle une approche produit, c'est-à-dire pas partir de la manière dont on faisait de la supervision, pas partir des technologies innovantes qu'on connaissait et de ce qu'on pourrait en faire, mais vraiment avant d'écrire la première ligne de code, d'aller voir les utilisateurs, et notamment les utilisateurs potentiels, les gens qui n'avaient jamais fait de monitoring, qui n'avaient pas du tout accès à tout ça, donc on pense les développeurs, mais les chefs de projet et autres, d'aller essayer de recueillir le besoin pour voir là où il y avait des manques, là où il y avait des besoins latents. Et à partir de là, développer des choses. Mais avec une approche produit, ça veut dire aussi sans réinventer la roue. C'est-à-dire que là où on voyait qu'il y avait un manque, quelque chose à intégrer, mais une solution existante, on remettait pas en cause la solution, on redéveloppait pas de choses existantes, on essayait au contraire d'intégrer tout ça. Et sur certains points, par exemple, typiquement pour faire du déploiement automatisé d'outils de supervision, il y avait déjà des choses qui existaient dans la société pour faire du déploiement automatisé. Donc on a plutôt été contribué au projet et aux composants qui servent à faire du déploiement, que d'essayer de faire notre propre système de déploiement. Donc voilà, l'idée fondamentale, c'était déjà d'essayer d'implémenter que des choses qui manquaient, avec toujours une approche produit, aller voir les briques qui manquaient, et surtout pas essayer d'imposer une solution monolithique. Donc créer au fur et à mesure un catalogue de composants et de services, dans lequel par exemple, un développeur va aller piocher une bibliothèque ou un outil qui lui permet de tester des choses, notamment tester des choses avec une infra big data sur son petit laptop sous Windows, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Mais aussi d'autres éléments de ce catalogue qui vont, eux, plus être utilisés ou plus ciblés, par exemple un PO, un chef de projet, qui ont besoin, eux, d'un dashboard ou d'un outil d'alerte automatique. Donc voilà, fournir en fait un catalogue de services de supervision. On veut surtout pas centraliser tout ça, être entre guillemets l'équipe qui va faire les dashboards de toute l'entreprise. De toute façon, on ne pourrait pas le faire, on n'a pas créé une grosse équipe. Mais voilà, fournir du service de supervision et du coup laisser les différents profils et les différentes équipes s'approprier, choisir ce qu'elles utilisent et les rendre autonomes en fait. C'est ça notre travail, c'est de les rendre autonomes plus que toute autre chose.
Et quels indicateurs vous avez mis en place ou vous souhaitez mettre en place pour démontrer à vos responsables que le projet fonctionne, que l'équipe fournit des services performants, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour démontrer que tout le travail qui a été fait apporte vraiment des choses très intéressantes à vos équipes?
Eh bien, alors, le but final, c'est, et pourquoi les entreprises se mettent toutes à DevOps, c'est pour réagir plus vite, relivrer plus vite. Pourquoi on veut faire du monitoring DevOps? C'est aussi pour voilà impliquer plus de monde, réagir plus vite, enrichir la supervision et du coup, in fine, réduire le time to market, améliorer la qualité de service. Donc ça, c'est l'objectif à très long terme. C'est ça qui drive tout le reste. Maintenant, les objectifs de ce projet, de cette petite équipe qui s'est montée pour mettre en place, proposer des services de supervision, ces critères de succès, c'est l'adoption par les équipes. Et la cerise sur le gâteau, entre guillemets, le deuxième critère, c'est la contribution. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à monter une grosse équipe qui fournisse et maintienne ces services pour tout le monde. On a créé une équipe parce qu'il faut bien démarrer, il faut bien au début produire pas mal de choses et que c'est difficile en ayant que des contributeurs libres. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a estimé à l'époque. Mais l'objectif n'est pas d'avoir une nouvelle équipe qui centralise comme ça une expertise ou le support de tel ou tel outil. Donc nos critères de succès, c'est vraiment, d'une part, avoir de plus en plus d'utilisateurs dans les équipes et d'autre part, avoir de plus en plus de contributeurs. Et c'est pour ça qu'on déploie tout un ensemble d'efforts qui seraient pas obligatoires si le but c'était juste de créer le meilleur outil technique de supervision ou des choses comme ça, plus performant, plus... On est obligé du coup de déployer beaucoup d'efforts de communication, faire des démos, de la documentation, beaucoup de tests automatisés pour aussi permettre aux contributeurs de venir vers nous, de s'approprier le code, d'apporter leur contribution. On veut éviter aussi l'effet tunnel. On veut pas mettre en place une petite équipe qui fabrique plein de choses pour en dire à la fin c'est un outil communautaire et l'équipe disparaît et plus personne ne sait la maintenir. Donc c'est un travail au quotidien pour que tout reste compréhensible, tout reste à jour et pour qu'un maximum de choses soient faites par des contributeurs.
Écoutez, super, super intéressant votre présentation. Merci François et merci Maxence. C'était vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'aurais aimé que cette présentation dure plus longtemps. Donc, merci à vous et puis bonne continuation. On espère vous revoir bientôt sur une présentation monitoring.
Suite, hein.
Un meet-up.
Pour la suite, hein, il y a déjà eu, on est le deuxième meet-up qu'on fait, il s'enchaîne un peu, on va monter une saga.
On avait présenté une sorte l'état de l'art, en fait, qu'on avait fait au départ pour voir un peu ce qui se faisait à l'extérieur, les tendances. On s'était dit que, comme on utilise beaucoup de briques open source, comme il y a beaucoup d'innovations dans le domaine du monitoring, c'était intéressant de déjà partager ça, que ça pouvait intéresser d'autres gens. Aujourd'hui, on est revenu pour présenter un petit peu après quelques mois de réalisation. Ben les premiers succès et montrer que les choses étaient possibles. Voilà, c'est vraiment intéressant. Enfin, on croit vraiment en des structures comme les meet-up, les conférences. On s'abreuve beaucoup de ces manifestations nous-mêmes pour développer des choses. Et donc, ça nous paraît important de partager. On espère que ça intéresse du monde et que ça va donner des idées aussi. C'est aussi comme ça que se propagent ces innovations, DevOps et voilà, et toutes ces belles choses.
Bien, merci et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.